Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens. Nous allons continuer, nous allons prendre le chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et les versets 1 à 11. 1 Thessaloniciens 5, 1 through 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Versets 1 à 11. Voilà, alors nous avons la fin, il y a 15 jours, nous avons vu la fin du chapitre 4, où il nous parle de l'enlèvement du Seigneur, quand il viendra prendre les chrétiens, ceux qui sont croyants, morts ou vivants, et il les prendra dans la gloire. Et donc maintenant, au chapitre 5, nous avons l'avènement du Seigneur, ou le jour du Seigneur. C'est le jour où Jésus viendra jusque sur la terre pour établir son autorité. Donc, chapitre 5, verset 1, il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Vous remarquerez qu'à la fin du chapitre 4, quand il a parlé de l'enlèvement de l'Église, quand Jésus vient pour prendre les croyants, ceux qui ont placé leur foi en lui, et pour les enlever sur la nuée, et ensuite jusque dans sa présence, eh bien la fin du chapitre 4 dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Vous, chrétiens, consolez-vous les uns les autres par ces paroles, parce que peu importe ce qui vous arrive, même si certains sont morts, mais dans la foi, ben, ils ne risquent rien, parce que nous allons tous nous rejoindre. C'est eux qui les premiers. Et ensuite, nous qui sommes vivants, nous les rejoindrons. Et ce chapitre 5, donc là où il parle d'un autre événement, une deuxième étape dans le retour de Christ, quand Jésus-Christ vient sur la terre pour s'établir, établir son pouvoir, eh bien, il nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et donc, que ce soit le sujet de l'enlèvement de l'Église, que ce soit le sujet du jugement du monde, eh bien, n'importe comment, ça nous est dit, non pas pour satisfaire notre curiosité, ces informations ne sont pas données pour favoriser le laisser-aller, dire, ben voilà, ben tout, c'est réglé, moi, peu importe ce qui m'arrive, je serai dans la présence du Seigneur. J'ai rien à craindre, je ne ferai pas partie de ceux qui seront jugés quand le Seigneur viendra. Ce n'est pas pour encourager le laisser-aller. Ce n'est pas aussi non plus pour diviser les chrétiens, parce que certains disent, bon, c'est un peu comme ça, et d'autres disent, ça ne sera comme ça. Et puis, il dit, ce n'est pas fait pour diviser les chrétiens non plus. Mais c'est là pour notre exhortation et pour notre édification. Comme je disais tout à l'heure, nous, l'Évangile, c'est un message qui nous dit que Dieu a un plan. Et Dieu sait où il va nous prendre, Dieu sait ce qu'il va faire de nous, il a un projet qui va le réaliser. Et un bon projet. Donc, nous pouvons être encouragés. Hein, on n'a pas à avoir peur. Les gens du monde, eh bien, ils essayent de ne pas y penser. Hein, essayer de leur parler de la mort. Et puis, on dit, mais bon, laissez-moi tranquille. J'ai autre chose à faire. Et les... Donc, c'est pour notre encouragement que c'est là. Rien que pour revoir rapidement, hein, parce que les chrétiens de Thessalonique, eh bien, ce sont des gens qui se sont premièrement convertis à Dieu. Hein, c'est ça que nous avons vu au début de la lettre. Il nous dit aussi que c'est des gens qui ont abandonné les idoles. Hein, il nous dit dans le chapitre 2 qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc il y avait toute une démarche qu'ils avaient faite, ils s'étaient engagés quand ils ont entendu l'évangile. Et il nous dit, et pour attendre des cieux le Fils qui nous délivre de la colère à venir. Regardez le chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 1, et les versets 9 et 10. Il dit, car on nous raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Christ en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux le Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Donc l'apôtre Paul leur avait enseigné tout le projet, tout le programme et le fait de la colère à venir. Et ils étaient sauvés. Quand on dit sauvés, c'est sauvés de cette colère à venir, ce jugement. Et donc, ils avaient compris que Dieu devait les délivrer de ce jugement. Mais ils ne savaient pas quand ça devait venir et quand cela devait arriver. Et donc, l'apôtre Paul leur a dit, écoutez, le Seigneur va revenir. Donc, vous, plutôt que de chercher la date et de vous souvenir de la date ou de savoir quelle est la date du retour de Christ, eh bien, vous vivez des vies telles qu'elles soient irréprochables, pour que quand Dieu vous trouve, eh bien, vous serez trouvés irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Hein. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 3 et au verset 13. Le verset 12 commence, « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Donc il nous parle de ce jour où Jésus-Christ reviendra avec tous ses saints. S'il revient du ciel avec ses saints, c'est que les saints sont déjà montés à la gloire. Hein, donc c'est ce qu'on a parlé il y a 15 jours quand on a dit l'enlèvement de l'Église. Il les enlève, il les prend et ensuite il reviendra sur terre avec ses saints. Hein, donc il dit il y a un jour où viendra le jugement et nous l'accompagnerons, nous serons avec lui. Donc pour nous, notre situation sera réglée auprès de lui. Hein, je vous dis entre l'enlèvement de l'Église et dans la gloire, il y aura le jugement. Le tribunal de Christ, hein, où nous sommes jugés non pas pour la vie ou la mort, mais pour les bonnes œuvres que nous avons commises, accomplies, hein, donc les récompenses. Hein, donc voilà. Un autre jour, on pourra développer cela. Mais donc les saints descendent avec lui, ici, ce que nous avons au chapitre 5, c'est justement ce à quoi il fait référence dans 2 Thessaloniciens. Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10, il nous dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos pour nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu des flammes de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc il a dit, voilà, le Seigneur va venir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va venir pour le jugement et pour venger ce que le monde aura fait subir aux croyants. Hein? Donc peut-être ici, nous ne vivons pas une persécution physique en tous les cas, mais dans d'autres pays, il y a une persécution physique, et il y a dans l'histoire, il y a eu ces persécutions. Et il dit, Jésus viendra, il jugera, et justement, il vous vengera, hein, parce que Dieu fait justice. Et donc, ce retour de Christ, cet avènement de Christ, quand il vient sur terre, et justement, et vous avez vu à la fin, au verset 10, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Donc, le jugement n'est pas pour les saints seront eux, ils partageront sa gloire. Parce qu'ils ont cru. Hein, donc c'est juste pour dire que à la fin du chapitre 4, c'est les chrétiens qui sont enlevés. Dans le chapitre 5, c'est Jésus-Christ qui vient pour le jugement sur terre. Et si nous comparons rapidement les deux passages, juste une comparaison superficielle, eh bien... Nous voyons que dans le chapitre 4, il parle d'une délivrance du croyant, tandis que dans le chapitre 5, eh bien, nous voyons un jugement sur les non-croyants, ceux qui n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Nous voyons qu'ils sont pris de court. Hein, au chapitre 5, on voit qu'il dit c'est comme un voleur qui vient dans la nuit. En général, un voleur, il ne vous envoie pas une lettre ou un texto pour vous dire « j'arrive ce soir vers minuit par là, hein, en fonction des difficultés que j'ai pour rentrer. » Non, non, il ne vous envoie pas ça. En fait, il fait exprès de venir à un moment où vous attendez le moins. Hein. Vous n'êtes pas là, ou bien vous êtes endormi, ou bien ou quelque chose. Hein, sinon, il ne sait pas voler, hein, il ne sait pas être voleur. Alors... Donc ils sont pris au dépourvu. Tandis que l'enfant de Dieu qui vit pour Dieu, lui, il attend chaque jour, il attend le retour du Seigneur. Il est prêt. Il dit, il vit de manière à être prêt. Il vit dans l'ordre, il vit dans la sainteté, il vit à la gloire du Seigneur et au service du Seigneur, parce qu'il est prêt. Donc lui, peu importe quand on frappe, hein, c'est quand vous attendez des invités, vous êtes prêt, vous êtes dans la maison, vous êtes là, tout est en ordre, tout est en place et tout. Et puis, dès qu'il frappe, vous ouvrez la porte et la maison est prête. Ben c'est dans ce sens-là qu'en tant que chrétien, nous attendons le Seigneur. Nous, il ne vient pas comme un voleur, même si on ne sait pas exactement à quel instant il vient, mais nous savons qu'il vient, donc la maison est toujours propre. Bien sûr qu'entre nous, ça nous arrange quand la personne nous dit une heure précise, quand elle va arriver. Et parfois, on n'est pas prêt jusqu'au moment, une minute avant. Et s'ils sont en retard, ça nous arrange souvent. Mais si la personne nous dit, mais moi, c'est durant l'année 2015, je vais passer te voir. Voilà, il faut que tous les jours, la maison soit en état. Hein, si on l'attend vraiment. Hein, ça c'est plus compliqué, ça. Voilà, ça veut dire que chaque fois qu'on dérange quelque chose, on le remet en place pour que ça soit intact. Alors, ce que nous avons ici dans le chapitre 5, eh bien, il y a ce qui s'est appelé, c'est l'avènement du Seigneur. Donc, l'avènement, ça veut dire quand il vient. Hein, quand il... Et l'avènement ici est inattendu. Hein, ils sont pris de court. C'est une surprise. Quand Jésus vient pour prendre des chrétiens, c'est soudain. C'est-à-dire, c'est en un clin d'œil. Ça, c'est vite fait. et le monde, presque, il ne se rendra pas, même pas compte. Hein, il... Mais là, pour, là, il nous dit que nous serons changés en un clin d'œil, en un instant. Hein, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15. Mais ici, ce jour, ici, au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, eh bien, c'est, il vient comme un voleur dans la nuit. Et il nous dit que c'est, la ruine sera soudaine. Hein, au verset 3, il dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Hein, » tout d'un coup, la femme dit « Écoute, c'est le moment, il faut y aller. » Eh bien, il dit « Non, mais ça ne m'arrange pas, attends jusqu'au matin au moins. » Non, 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 c'est, si elle dit que c'est le moment, c'est le moment. Hein, j'ai vécu ça la première fois. La première fois, je croyais que je pouvais remettre à plus tard. Ah, ça n'a pas duré longtemps, cette idée. Et donc, et en fait, pour ce temps où le monde dit paix et sûreté, finalement, c'est pour ceux qui sont un peu dans l'Apocalypse. Eh bien, vous vous souvenez, il y a un moment où il y a un pacte de paix qui est signé. Et pendant 3 ans et demi, c'est la paix. Hein. Les premiers 3 ans et demi de la grande tribulation, il y a une paix qui est établie. Tout le monde est rassuré, tout le monde va bien. Puis tout d'un coup, ça explose et ça part dans tous les sens. Quand le monde dit paix et sûreté, alors là viendra. Il surprendra. Il y a déjà ce signe-là, tandis que pour l'enlèvement de l'Église, il n'y a rien, il n'y a aucun signe. Hein, le Seigneur, nous n'avons aucun signe pour nous avertir de l'enlèvement de l'Église. Tandis que pour le retour de Christ, il n'y a pas une date, mais il y a des signes annonciateurs, hein, que le Seigneur nous donne. Quand je lis ce chapitre 5 d'un Thessalonicien, il commence par dire au verset 1, il dit « Frère, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. » Et après, il passe au chapitre 3, il parle de « eux » qui disent, et c'est une ruine soudaine pour eux, et les douleurs d'enfantement les surprennent. Ils n'échapperont point. Verset 4, il reprend « Mais vous, frère, vous n'êtes pas des ténèbres. » Donc, il y a une distinction, et ce qu'on voit, en fait... Pour ce qui est de Dieu, le monde, il n'y a que deux parties. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. C'est tout. Il y a nous et il y a eux. Il y a ceux qui sont en Jésus-Christ et il y a ceux qui ne le sont pas. C'est tout. Pour Dieu, le monde se divise en deux parties. C'est ce que j'ai fait de Christ. Ce que j'ai eu comme argent, ce que j'ai eu comme mes origines, tout ça, ça ne jouera pas du tout. C'est est-ce que j'ai connu Jésus-Christ, je l'ai reçu dans mon cœur ou je ne l'ai pas reçu? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu pendant que j'étais sur terre ou je ne l'ai pas fait? C'est tout. Et il dit les autres, ceux qui n'ont pas cru, eh bien, ils n'échapperont point. La ruine sera soudaine et ils n'échapperont point. Si vous voulez une plus grande description de cela, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Hein. Regardez Matthieu chapitre 24. C'est pour vous dire à quoi correspond ce chapitre, les chapitres 24 et 25. Hein, c'est Jésus sur le mont des Oliviers et qui parle des événements futurs. Je ne peux pas lire ces deux longs chapitres. Alors, on va lire juste quelques versets. Vous pourrez reprendre si vous voulez après. Donc, je vais lire à partir du verset 36. Donc, Matthieu 24 et verset 36. Il dit, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, si personne ne sait, ce n'est pas la peine de prétendre savoir, hein, ou de pouvoir faire un calcul. Personne ne sait. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, premier indice, il dit, les gens se diront, mais tout va bien, il n'y a pas de problème, nous on contrôle la situation, et tout, c'est tranquille, on vit, on mange, on boit, on s'amuse, on prend des vacances, et puis travaille le moins possible, et tout va bien. Eh bien, il dit, voilà, ça c'est une attitude, une pensée qui sera caractéristique des derniers jours. Verset 40. Il est alors que deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Et quand celle qui est prise, c'est pour le jugement, hein, dans ce cas ici. Ça ne parle pas de l'enlèvement d'église. Dans l'enlèvement d'église, c'est les croyants qui sont enlevés. Mais ici, dans le jugement, ceux qui sont pris, regardez la suite. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, que si le maître de la maison savait à quelle heure, quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Quel est donc le serviteur fidèle qui est prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est ce méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, et il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est le jugement. Hein. Et bien, celui qui est là, il n'est pas prêt, il ne s'attend pas, il est prêt au dépourvu, il pensait que tout allait bien, qu'il contrôlait la situation. Et bien, celui-là est pris pour le jugement. Hein. Donc, 1 Thessaloniciens 5, c'est le Seigneur qui vient avec ses saints sur la terre et qui rend justice. Alors Jésus, là, c'est Jésus qui vient et pour prendre possession et pour établir le royaume hein, qui avait été proposé hein, dans Matthieu, quand Christ est venu, il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et il proposait le royaume, on l'a rejeté le roi, on l'a crucifié. La prochaine fois, ce ne sera pas eux qui décideront. C'est lui qui viendra et qui s'imposera. Hein, et il établira son royaume. Le premier aspect de cet avènement, c'est qu'il était inattendu pour les non-croyants. Pour les croyants, ceux qui étaient en Jésus-Christ, eh bien, ils auront déjà été enlevés. Bon, il y aura, après l'enlèvement, il y aura la possibilité quand même, hein, parce qu'il y a des hommes, il y aura pour ceux qui sont encore là, il y aura la possibilité de croire, hein, pendant la grande tribulation, hein, quand vous lisez l'Apocalypse, tout d'un coup, il y a des croyants qui sont issus de la tribulation. Hein. Ils ne font pas partie de l'Église, ce sont des croyants, ils feront partie du royaume de Dieu, ils seront ressuscités, ils seront vengés, et tout cela. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, il y aura d'autres qui croiront, hein, et eux verront, eux seront présents pour ce retour de Christ, de jugement sur la terre. Hein, ils le verront venir. Mais nous, actuellement, nous faisons partie de l'Église de Christ, et Jésus-Christ viendra pour prendre son épouse. Il la prendra quand elle sera complète, et il la prendra dans la gloire. Il y a juste là, entre parenthèses, hein, parce que les croyants, l'ensemble des croyants du monde entier, il y a ceux qui étaient avant le déluge de Noé, il y avait des croyants, hein, Noé par exemple. Il y a, après le déluge jusqu'à Moïse, il y a des croyants aussi. Entre Moïse et Jésus-Christ, il y a des croyants. Et puis après, il y a, depuis la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il y a un corps qui se forme, qui est le corps de Christ. Et puis après l'enlèvement, il y a la grande tribulation, et il y aura des personnes qui vont croire pendant ce temps-là. Eh bien, toute la masse des croyants, depuis la création jusqu'à la fin du monde, tous ceux qui ont cru, peu importe à la période et quel sera le format du message, ce sera toujours par la foi, eh bien, ils feront partie du royaume de Dieu. Hein, et donc, ils auront une place. Même s'ils ne sont pas l'épouse de Christ, mais un mariage, il y a plein d'amis. Hein, il y a plein de monde. Hein. Donc, les amis seront là. Et il y aura un grand banquet. Tout ce monde sera là pour le noce de l'agneau. Hein, il y a différentes périodes et je ne vais pas m'étaler là-dessus pour l'instant, mais c'est juste pour mettre dans le contexte. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, il vient à un moment où ils ne s'y attendent pas et ils sont surpris. Et Jésus intervient. Verset 4 et 5, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce qui est, pour ce jour, que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, il est en train de dire, voilà, il dit, nous sommes des enfants de lumière. Ceux qui avons cru, nous sommes des enfants de lumière. Nous vivons dans la lumière. Nous sommes en communion avec le Père. Et il fait son œuvre à travers de nous. Et les autres sont les enfants des ténèbres. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pas notre nom de famille, mais c'est le fait que nous avons reçu Jésus-Christ ou nous ne l'avons pas reçu. Et dit, pour ceux qui sont de la lumière, eh bien, ils ne vont pas être surpris. Hein, les voleurs, ils ne viennent pas le jour. Quand on est éveillé et quand on est là en train de les regarder. Hein, c'est quand on tourne le dos, quand on est endormi, quand on est par ailleurs. Alors, ici, il dit, nous ne sommes point de la nuit, nous ne sommes pas des ténèbres, nous avons une autre vie. Hein, c'est l'épître de Jean parle de ce que Dieu est lumière. Et ceux qui sont en communion avec le Père sont dans la lumière. On ne peut pas être dans les ténèbres et en communion avec Dieu. Hein, c'est deux choses. La lumière, on ne peut pas être dans l'un et l'autre. Il faut l'un ou l'autre. Il y a des signes qui vont annoncer ce retour de Dieu. Regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Hein, donc apparemment, la première lettre, elle n'a pas tout expliqué, donc l'apôtre Paul reprend certains points dans la deuxième lettre. Hein, de Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 1, il commence, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, et voilà, il donne le signe. Donc il dit attention, les gens qui viennent vous dire, ben Jésus est là, ou il est arrivé, ou il va arriver sous peu. Il dit, faites attention à tout ça, ne vous laissez pas perturber par ces gens-là. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Le jour où le Seigneur viendra sur terre pour régner, il dit, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est lorsqu'on on abandonne la foi, on abandonne l'enseignement biblique. Il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, et donc l'antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Donc quelqu'un qui va essayer un homme qui a apparu, qui supplante Dieu dans le monde. Hein, qui prend la place de Dieu et qui se fait adorer lui-même et qui prend toute la gloire de Dieu pour lui-même. Hein, il dit, donc avant l'avènement du Seigneur qui vient sur la terre, il y aura cette situation-là. bien sûr, vous lisez dans l'Apocalypse, vous le voyez, il nous le décrit, hein, dans l'Apocalypse, comment ça se passe, et l'Antéchrist et tout cela. Donc, il dit, et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il dit, c'est un signe avant-coureur de l'avènement de Christ. Pour l'enlèvement des chrétiens, il n'y a rien, il n'y a aucun signe. Ça peut arriver, rien ne l'empêche de venir, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais pour ce qui est du retour sur terre, pour le jugement, eh bien, alors il y a des indications. Et puis, vous lisez Matthieu 24, vous en verrez d'autres. Hein. Je continue verset 5, hein, donc 2 Thessaloniciens 2, 5, il dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Donc, il y a quelque chose qui empêche cet homme d'apparaître. Il dit, car, verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, il dit, et c'est vrai que dans la mentalité du monde, ça va dans le sens, hein, ça va, on cherche, et même de nos jours, hein, en fait, on aimerait bien avoir un meneur, un leader. Hein, on a l'impression que tous les pays, c'est la pagaille et c'est partout. On aimerait bien avoir un homme qui nous dirige et mettre de l'ordre dans ce monde. Il dit, le sentiment, les choses vont dans ce sens. Mais cet homme-là ne peut pas paraître tant que celui qui le retient est là. Et très certainement que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. Et tant que le Saint-Esprit est là, eh bien, Satan et son programme, il est freiné. Quand l'Église sera enlevée, quand les chrétiens seront enlevés, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, quand ils seront enlevés, eh bien, l'Esprit de Dieu sera plus là. Et donc après, l'ennemi aura le champ libre. Hein, c'est pour ça que nous pensons que toutes ces choses vont passer après l'enlèvement de l'Église. Et après, il y aura le champ libre. Et puis, vous lisez le livre de l'Apocalypse, hein, à partir du chapitre 4 jusqu'à 18, 19, là, et vous verrez ce qui se passe. Là, Satan semble avoir le champ libre. Et puis, à la fin, vous avez Jésus-Christ qui descend des cieux. Je continue à lire, hein, dans 2 Thessaloniciens, verset 8, il dit « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Donc l'impie sera déjà sur terre quand Jésus viendra. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Et avec des séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris le plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dis donc, il y a un moment où ils auraient pu recevoir, ils ont rejeté, et bien Dieu dit maintenant, et bien en plus, il dit... Il les laisse libres même de croire un mensonge. Satan pourra leur raconter n'importe quoi. Et il établira son royaume. Mais c'est à ce moment-là que Christ viendra. Donc, chapitre 5, quand on parle de l'avènement de Christ sur terre, c'est pour le jugement, non pas pour les chrétiens. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour essayer de rendre ça clair. Donc, si quelqu'un vous dit, et par exemple, vous aurez affaire avec les témoins de Jéhovah, hein, leur principe, c'est Christ est déjà là. Ben, s'il est déjà là, où est son règne, et où est son pouvoir et son autorité? On n'a pas l'impression qu'il soit là. Et quand il viendra, ce sera avec éclat, ce sera avec puissance, ce sera avec... Et l'ennemi sera vraiment dérangé. Donc... Dieu a un plan, le plan se réalisera, le plan se fera. Encore une fois, je le dis, je le répète, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous ne serons pas là. Hein. C'est ça, si l'enlèvement de Christ se fait, après, il y a des gens qui naissent dans, durant la période qui suit. Alors, eux pourront croire, mais bon, ça sera une période de grande persécution. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous sommes prévenus. Hein, donc, on est avertis. Donc, je continue à lire. Donc, je reviens à 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Il dit donc, puisque nous savons tout cela, eh bien, pour ce qui nous concerne, hein, ne dormons point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. C'est un autre monde, c'est un monde du ténèbre. Mais nous sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu. Et voilà, il donne trois mots importants. Il dit la foi, l'amour et l'espérance. Vous savez, on a vu ces trois mots ailleurs. Hein, à la fin de 1 Corinthiens 13, il dit ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il dit alors vous, ne vous occupez pas de ce qui va arriver, vous ne serez même pas là, ne vous faites pas de soucis que vous avez raté ou que ou quelque chose, il dit vous occupez pas. Vous, concentrez-vous sur votre vie. Hein? Et si vous faites tout pour préserver la foi, et la foi c'est la parole, hein? Donc. Nous avons la foi, nous pouvons l'entretenir en lisant la parole, en étudiant la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Il dit, vous entretenez l'espérance. L'espérance, c'est justement, on sait que Christ, Dieu, a un plan pour nous, un bon plan, et que nous sommes dans son plan. Et puis, il dit, et l'amour, eh bien, voilà, l'amour, c'est ce que... C'est ce ciment hein, qui dirige notre relation, hein, qui nous distingue. Hein, le monde saura que nous sommes ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Le monde pourra connaître l'amour de Dieu par l'amour que nous avons pour eux. Un amour dont ils ne sont pas dignes peut-être, pas plus que nous étions dignes de l'amour de Dieu. Mais c'est justement cet amour-là. Il dit, concentrons-nous sur cela. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, tout au début de la lettre, verset 3, il dit « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ. Hein, » Donc, c'est ces trois mots, c'est au début de la lettre, ces trois mots sont à la fin de la lettre. Il dit « Écoutez, concentrez-vous sur cela, ne vous occupez pas du reste et vivrez une vie sobre dans la foi. » Et alors, j'arrive au verset 9, hein, donc 1 Thessaloniciens 5, 9, il dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, nous, hein, nous les croyants, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc nous ne verrons pas le jugement de Dieu sur le monde. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Sauveur Jésus-Christ. Hein, la possession. Posséder, ça veut dire que je l'ai, je le contrôle, je maîtrise. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'espère, qui est là, et puis j'espère que je vais le trouver. Non, je le possède, je l'ai. Hein. Donc, il dit, pour nous, nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés à posséder le salut. Et être rassuré, c'est ça notre force et notre espérance. Et peu importe ce qui arrive, eh bien, Dieu a dit. Et donc, je sais que ça viendra. Et tout à l'heure, nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 2, il dit, nous étions enfants de colère, nous étions destinés au jugement, mais Dieu, dans son amour, nous a délivrés. Et maintenant, c'est pour que nous possédions le salut, hein, que nous l'ayons. Et peu importe ce qui nous arrive, nous sommes convaincus que nous avons cette vie nouvelle. Et donc, verset 10, donc, il nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, hein, pour le chrétien, veiller c'est être vivant, et dormir pour le chrétien c'est la mort. Alors, il dit pour nous, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, peu importe ce qui nous arrive sur terre, peu importe si je suis mort ou vivant, nous sommes avec lui. Et ensemble. Hein, et vous vous rappelez tout à l'heure, dans Éphésiens 2, on a lu, nous sommes assis ensemble dans la gloire céleste. Finalement, c'est tellement, pour Dieu, c'est tellement sûr que c'est comme si on était déjà assis. Hein, les places sont déjà là. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à ces Thessaloniciens qui sont en pleine persécution pour les rassurer. Il dit, peu importe ce qu'ils font de vous, ils vous laissent en vie, ils vous tuent, peu importe. Vous possédez le salut, vous êtes en Christ et vous n'avez rien à craindre. Et vous n'avez surtout pas à craindre le jugement dernier parce que ce n'est pas pour vous. Et donc, c'est pour ça que le verset 11 peut exister, justement parce que c'est positif tout cela. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Encouragez-vous. C'est des choses qui rassurent. Hein, dans notre monde où il y a tellement de choses qui se passent, et on a l'impression que ça va de mal en pis, mais il dit, crains pas. Dieu a un plan et il va le réaliser. Ce qu'il avait annoncé à Abraham se réalise. Ce que Jésus a dit dans l'immédiat, c'est arrivé. Eh bien, nous savons que ce qui reste à se réaliser se réalisera parce que Dieu réalise son plan. Et nous pouvons être confiants. Donc, à nous de nous concentrer à être fidèles, irréprochables, à vivre dans la pureté et la sainteté devant Dieu dans ce monde. Lui, il marche selon une pensée, nous marchons selon une autre. Mais peu importe, c'est que nous voulons être prêts pour le Seigneur. Hein, donc, restons encouragés, restons fidèles, restons attachés. Je sais que tout ça, c'est un peu compliqué, mais c'est juste la leçon à tirer de cela. C'est que Dieu, si je suis en Jésus-Christ, il a un plan pour moi. Et il va le réaliser, et je n'ai rien à craindre. Hein? Donc, je vis pour lui. Vivons pour Jésus-Christ. Et tout ce que nous faisons, c'est à sa gloire. Et ne vous laissez pas influencer par les uns et les autres. Je sais que vous pouvez, c'est possible d'aller sur Internet, et vous pouvez lire des sites qui vont prendre des versets, et puis ils vont annoncer des choses catastrophiques. Qui correspondent à, dit moi, ma confiance est en Dieu, hein, et pas dans les capacités d'interpréter. Dieu nous a dit, passez pas votre temps à essayer de comprendre quand et comment les choses vont se passer, concentrez-vous à vivre une vie pure devant le Seigneur, et c'est tout ce qu'il demande. Que le Seigneur nous aide. Ce qui est important pour nous, j'espère que dans notre groupe, on n'a pas une question, on n'est pas séparé entre croyants et non-croyants. Hein, j'espère que nous sommes tous dans le Seigneur. Et si vous avez le moindre doute, parlez-moi-en. Et on fera le nécessaire pour que vous n'ayez plus de doute. Mais ce qui importe, c'est que... parce que s'il y a le doute, il n'y a pas l'espérance. Hein, donc il faut cette espérance. C'est ça qui sera notre force. Voilà, prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ces paroles, tout comme ces Thessaloniciens ont pu être un peu perturbés par les événements. Eh bien, nous ne voulons pas être perturbés et nous te remercions pour ce message et tu nous rassures, même si tu ne nous expliques pas les choses, mais on n'a pas besoin de les comprendre. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que toi, tu as les choses en main et que les choses se passeront comme tu l'as voulu. Et peu importe ce que la méchanceté de l'homme peut l'amener à faire, mais toi, tu feras ton plan, tu réaliseras ton plan. Et si nous sommes sauvés, et tu emploies le mot sauvé, c'est parce que nous sommes réellement sauvés et que nous pouvons posséder le salut et savoir que nous sommes en toi. Et Père, nous te prions de nous aider, nous encourager et que nous puissions baigner dans cette dans cette assurance et cette promesse et être soulagé. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Je vous propose un cantique, le 288. Le 288. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, au divin maître. Voilà, 288, tout est lié.